Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette nouvelle édition des Jeudis de l'Ordre, en distanciel toujours, bien sûr, vous l'avez compris. Merci de votre présence ce soir. On est très heureux de vous retrouver. Quelques petites annonces avant de vous présenter nos conférenciers de ce soir. Tout d'abord, vous dire que les prochains Jeudis de l'Ordre seront tout d'abord le 13 janvier, où nous parlerons de la prévention des IST. Et puis le 27 janvier, un jeudi de l'ordre, une édition spéciale sur la souffrance des jeunes médecins, où nous aurons des représentants, des étudiants en médecine, des internes et des jeunes médecins pour nous parler de l'état des lieux, de la souffrance actuellement des jeunes médecins. Et puis ce sera suivi d'une table ronde où seront présents également Valérie Auslander, qui est l'autrice du livre « Omerta à l'hôpital », Laurence Marbach, qui est la fondatrice et présidente de la LIPSEM, et le directeur général de la PHM, François Crémieux. Ça, ce sera le 27 janvier. Et puis, vous annoncez aussi que vous recevrez dans la newsletter de janvier. On sait maintenant que vous vous précipitez quand vous recevez la newsletter du Conseil de l'Ordre. Et donc, ouvrez bien celle-ci, puisque notamment, vous aurez là-dedans un questionnaire où on vous interrogera sur les sujets que vous souhaitez voir abordés dans la prochaine saison des Jeudis de l'Ordre. Voilà, sans plus attendre, je vais vous annoncer avec un immense plaisir les conférenciers de ce soir. Tout d'abord, le professeur Marie Masclet de Barbarin, qui est professeur des universités à Aix-Marseille Université, spécialisé en droit fiscal. Et puis Olivier Verlevoet, qui vient représenter l'ordre des experts comptables. Et tous les deux vont nous parler d'un sujet qui nous semblait très important d'aborder dans ces Jeudis de l'Ordre, sur le béaba de l'exercice libéral, tout ce que vous avez voulu savoir quand vous êtes sur le point de vous installer. Et sans plus attendre, je leur laisse encore une fois avec un immense plaisir et je les remercie sincèrement la parole.
Merci beaucoup Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette présentation sur le béaba de l'exercice libéral. Donc, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va vous donner beaucoup de cartes en main pour pouvoir exercer au mieux votre activité libérale, en parlant aussi bien de la simple intervention en tant que collaborateur libéral, mais aussi de l'installation en nom propre et surtout de l'installation en société, dans le cadre de sociétés de moyens, mais aussi de sociétés d'exercice. Donc, des objets très divers qui vont, si je puis dire, du Minitel jusqu'au smartphone. Et c'est intéressant d'aller jusqu'au smartphone parce que vous verrez que dans certains cas, vous pouvez aller directement au smartphone sans passer par le Minitel. Donc, c'est bien d'avoir cette vision-là au moment où vous pouvez vous installer. Et puis pour ceux d'entre vous qui sont déjà installés, c'est aussi une façon d'imaginer comment on peut faire évoluer son activité avec d'autres outils juridiques et fiscaux. Donc on va commencer sans plus attendre sur l'exercice en tant que collaborateur libéral. Donc c'est effectivement la forme la plus simple puisque pour le médecin collaborateur, il n'y a pas d'investissement particulier à faire. Donc ça permet d'acquérir une expérience en cabinet, d'éviter d'avoir des charges financières lourdes liées à l'installation. On a la possibilité de développer sa propre patientèle. Et puis, à l'issue de la collaboration, deux possibilités, soit reprendre le cabinet si c'est le souhait du médecin titulaire, soit éventuellement s'installer de manière indépendante en conservant la patientèle que l'on a développée dans le cabinet. Pour le médecin titulaire, évidemment, des avantages aussi, puisque ça va permettre de diminuer la charge de travail et puis tester éventuellement un successeur avant de lui céder son cabinet. Les inconvénients, le collaborateur doit verser au praticien une redevance mensuelle qui est en général calculée en pourcentage des honoraires. Il va signer un contrat, Laurent va vous en parler, des choses importantes qu'il faut noter dans ce contrat, donc notamment les modalités d'exercice, le nombre de jours, le pourcentage d'honoraires à reverser. Et ce contrat, au bout de 4 ans, va devoir être renégocié. Également la clause de non-concurrence, là aussi, qui peut limiter l'installation après cette période de collaboration, qui peut être aussi qui peut limiter l'installation du médecin. Donc à voir aussi, j'imagine, tu nous en parleras. Sur les modalités, c'est relativement simple, puisqu'il suffit de rédiger un contrat de collaboration avec mise à disposition des locaux, du matériel, d'une partie de la patientèle, et puis le versement donc, de ces honoraires, d'un pourcentage des honoraires chaque mois. À côté de cette installation en tant que collaborateur, on peut choisir de s'installer en nom propre pour pouvoir être seul maître à bord, si on peut dire. Donc là, l'avantage de la simplicité, puisqu'il n'y a pas de société à créer. La possibilité éventuellement de racheter une patientèle ou alors de s'installer en créant cette patientèle. Et puis une comptabilité qui sera simplifiée. Donc on parle de comptabilité de caisse. Hein. Tout ce qui va être encaissé comme honoraire sera une recette. Tout ce qui va être dépensé va être comptabilisé en tant que tel. Donc ce sera relativement simple, même s'il est fortement conseillé d'avoir recours à un expert comptable pour gérer même à ce niveau-là son activité. Vous pourrez adhérer éventuellement à une association de gestion agréée. Laurent va vous en parler. Voilà, c'est des choses qui étaient importantes il y a quelques années puis qui tendent à disparaître. Donc on n'a plus la sanction de la majoration des revenus. Donc là aussi, c'est un élément dont il faudra reparler. Au niveau de votre régime fiscal, donc vous allez être imposé à l'impôt sur les revenus. Alors la catégorie d'imposition des médecins, ce sont les bénéfices non commerciaux. Vous connaissez peut-être les traitements et salaires, qui est une autre catégorie en matière d'impôt sur les revenus. Donc votre activité en tant que médecin sera imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Et lorsque vous commencez votre activité, vous avez la possibilité d'avoir recours à ce régime de micro BNC qui vous permet d'avoir un abattement de 34% sur vos revenus sans avoir à justifier ces frais. Donc ça peut être intéressant, mais si vous vous installez et que vous avez des frais d'installation, c'est pas forcément intéressant. Donc à voir peut-être avec votre expert comptable également. Alors, c'est l'avantage de la simplicité, mais effectivement, juridiquement et fiscalement, c'est relativement peu intéressant. Je crois qu'on peut dire que si on veut payer moins d'impôts quand on exerce en nom propre, la seule possibilité, c'est de gagner moins d'argent, hein, en quelque sorte. Donc, pas ici vraiment de possibilité de piloter son activité. Pas de limitation de responsabilité non plus, l'impossibilité de moduler les charges sociales, l'impossibilité de les provisionner, on le verra dans la société d'exercice libéral, et puis un taux d'imposition qui peut être élevé puisque vos revenus vont venir se rajouter à l'ensemble des revenus du foyer fiscal et vous avez des taux d'imposition par part qui sont de 41% des 73 370 euros et 45% au-delà, à partir de 157 806 euros. Donc, vous voyez qu'on arrive à des montants d'imposition qui sont relativement importants. Alors, un petit focus ici, si vous vous installez en nom propre, vous pourrez avoir un petit coup de pouce, notamment dans le cadre du contrat du début d'exercice. Alors, c'est une création qui est issue de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2020, qui remplace en fait les quatre précédents dispositifs d'aide. Praticien territorial de médecine générale, praticien territorial de médecine ambulatoire, praticien isolé à activité saisonnière et praticien territorial médical de remplacement. Donc, vous pouvez avoir recours à ce contrat de début d'exercice si vous êtes dans le cadre d'un dispositif conventionnel d'aide à l'installation des médecins et également si vous avez suivi vos études dans le cadre d'un contrat d'engagement de service public. C'est tout à fait compatible. Les avantages, c'est tout d'abord dans le cadre de ce contrat conclu pour 3 ans, quel que soit votre statut, une rémunération complémentaire qui va vous être attribuée pour la première année. Et puis, vous aurez un accompagnement dans la gestion administrative et également une meilleure protection sociale. Donc, à voir, je vous ai mis les références du site Amélie qui détaille très précisément ce contrat si ces modalités vous intéressent. Donc, on a vu les deux types de contrats collaborateurs et en nom propre. On va s'intéresser maintenant au mode d'exercice à plusieurs. Alors, on a d'abord l'exercice en commun sans création de société. Donc, on va voir le contrat d'association et la société créée de fait. On verra ensuite l'exercice en commun dans le cadre de la création d'une société. Et là, on va aborder deux types de sociétés. Les sociétés de moyens qui vont servir uniquement à gérer les moyens d'exercice, donc le cabinet, par exemple, les salariés. Et puis, les sociétés véritablement d'exercice, où là, on va gérer au-delà des moyens, on va gérer également les honoraires. Donc, on a deux modes d'exercice qu'on va vous présenter ici. La société civile professionnelle, qui est c'est la plus ancienne société qui était très souvent utilisée par les médecins à l'époque et puis qui est très largement remplacée aujourd'hui par les sociétés d'exercice libéral, donc qui est le dernier outil que l'on va voir ensemble. Alors, sur ce premier type d'exercice sans création de société, d'exercice en commun, on a ce contrat d'association, donc qui est, on retrouve sous différents termes, le contrat d'exercice professionnel à frais communs, vous avez dû entendre cette appellation, ou le contrat d'exercice conjoint. Toutes ces appellations ont le même objectif, c'est une mise en commun des frais sans mise en commun des honoraires. Donc l'avantage, c'est que c'est très simple à mettre en œuvre. Chacun va conserver son indépendance par rapport à son mode d'exercice. Et les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de personnalité juridique puisqu'il n'y a pas de création de société. Donc si vous souhaitez partager des locaux, ben, ce sera par exemple forcément un associé qui va être titulaire du bail, ce qui peut poser problème en cas de séparation ou autre. Les dettes, de la même façon, seront détenues en indivision. Donc tous les associés vont être solidairement responsables, y compris sur leur patrimoine privé. Donc là aussi, Laurent, tu donneras des indications pour protéger son patrimoine dans le cadre de son exercice. Voilà, donc c'est plutôt à réserver au début d'exercice, seulement s'il y a peu de frais à partager. Donc à éviter vraiment s'il y a des matériels lourds, des salariés ou des engagements, puisqu'on ne pourra pas avoir d'engagement commun ici. À côté du contrat d'association, on retrouve la société créée de fait, donc société de fait ou société créée de fait, qui, contrairement au contrat d'association, là, va prévoir un partage d'honoraires. Donc, il n'y a pas de société, il n'y a pas de statut, hein, juste la constatation d'un fonctionnement en commun qu'il est fortement conseillé de rédiger dans le cadre d'une convention. Donc là aussi, vous aurez les conseils éclairés de Laurent Vervoet sur vraiment les mentions qu'il faut retrouver. Le principe, c'est que les frais professionnels personnels restent à la charge de chaque praticien. Sur la convention, tu nous en parleras tout à l'heure. Et les inconvénients, les associés, là encore, sont solidairement responsables. En cas de départ d'un associé ou de mise en jeu de la responsabilité, les biens achetés en commun devront être revendus. Le bail éventuel ou le contrat de travail devront être rédigés au nom d'un associé et pas au nom de la société. Et la société va effectivement faire sa déclaration de bénéfices, mais les bénéfices vont être imposés entre les mains des associés. Donc, à réserver peut-être à une période transitoire avant de créer une société civile de moyens. Mais là encore, est-ce qu'on a besoin de passer par le Minitel ? Voilà, à discuter, vous aurez quelques clés pour répondre à ces différents choix. Alors, l'exercice maintenant en commun dans le cadre d'une société. Donc, la première société qu'on a choisie ici, c'est la société civile de moyens. Donc, c'est une société qui va permettre de mettre en commun tous les éléments dont on va avoir besoin pour exercer son métier et l'objectif de cette société. qui, elle, va être dotée de la personnalité morale, ça sera d'investir, de signer des contrats, d'embaucher du personnel et de faciliter l'exercice en commun de l'activité. Donc là, chaque associé va acheter des parts sociales de cette société au moyen d'apports en nature ou d'apports en numéraire. Et l'exercice des associés va rester tout à fait libre, puisque là, on ne gère que dans le cadre de la SCM les moyens matériels. Alors, les inconvénients, il y en a aussi, hein, la responsabilité, là encore, conjointe et indéfinie des associés. Les frais de constitution et de formalisme, hein, on est dans le cadre d'une société qu'il va falloir créer, qu'il va falloir gérer. Là encore, il est fortement conseillé d'avoir recours à un expert comptable pour vous accompagner dans ces démarches. Le risque de mésentente entre les associés, de dissolution de la société, sont importants ici. Donc voilà, il vaut mieux essayer de bien poser des éléments clés dans le cadre de la convention, dans le cadre des statuts de cette société civile de moyens pour éviter les difficultés ou les mauvaises surprises par la suite. En ce qui concerne l'optimisation fiscale, alors l'optimisation fiscale n'est pas un gros mot, hein, c'est lorsque l'administration fiscale vous laisse le choix entre deux possibilités. Vous avez le choix de choisir celle qui vous est la plus avantageuse avec une limite qui est celle de l'abus de droit. Donc il faut être bien conseillé, ça c'est important. Mais là, on n'a pas vraiment de possibilité de moduler son activité puisqu'on ne gère que ses moyens matériels. Donc la SCM ne peut pas réaliser de bénéfices, elle ne peut rendre des services qu'à ses membres et elle ne peut recevoir que des remboursements de frais provenant de ses associés. Si par exemple on décide de mettre à disposition son cabinet les jours où il n'est pas utilisé, les sommes que vous allez recevoir à cet égard excèdent les 10% de recettes de la société civile de moyens, elle va être requalifiée en société commerciale et à ce titre, elle va être soumise à l'impôt sur les sociétés et ça sera considéré comme fiscalement comme une vente. Donc les risques sont relativement importants avec cette société. Donc il faut faire attention à la façon dont on l'utilise et il faut essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir par rapport à cet outil. L'autre société que l'on peut retrouver, ce n'est plus une société de moyens, mais une société d'exercice. Et là, on va voir deux cas différents. J'allais dire notre bonne vieille société civile professionnelle, qui est une société soumise à l'impôt sur le revenu, hein, une société de personnes. On parle de société transparente parce que les sommes sont imposées entre les mains des associés. Et puis son opposé, c'est la société d'exercice libéral, qui, elle, est une société opaque, avec une personnalité juridique qui lui est propre et une imposition qui va être réalisée au niveau de la société. Donc deux outils très différents avec des objectifs très différents. Donc si on commence par la société civile professionnelle, donc c'est une société d'exercice cette fois qui là encore va permettre de faciliter l'exercice en commun, mais qui cette fois va encaisser également les honoraires. Donc il va payer les frais de fonctionnement, partager les recettes entre les associés. Donc on va avoir effectivement des bénéfices qui vont être déterminés au niveau de la société, mais qui vont être imposés entre les mains des associés. Et on va pouvoir effectuer un partage d'honoraires et une mise en commun des moyens. Donc on a déjà deux avantages par rapport à ce qu'on avait vu précédemment dans la société créée de fait ou dans la société civile de moyens. Alors, les inconvénients juridiques et fiscaux, là aussi, on les retrouve. Pourquoi ? Parce qu'on a encore une fois cette responsabilité solidaire forte, responsabilité des associés vis-à-vis des dettes de la société civile professionnelle et responsabilité de la société civile professionnelle éventuellement vis-à-vis de la condamnation des associés. Également, les associés ne peuvent pas cumuler l'exercice en SCP avec l'exercice d'une activité à titre individuel, donc il faut là aussi essayer de se projeter dans l'avenir pour voir comment est-ce qu'on souhaite évoluer. Si on souhaite exercer en site multiple, par exemple, ça peut être quelque chose de relativement bloquant. On retrouve les frais de constitution et les frais de formalisme, hein, c'est une société qu'il faut faire vivre et animer. et les risques de blocage en cas de mésentente entre les associés. Donc, comme pour la SCM, la loi n'a pas vraiment prévu d'outils pour résoudre les conflits dans ce genre de société et l'absence de possibilité d'optimisation fiscale au regard des revenus distribués aux associés qui seront imposés à l'impôt sur le revenu, exactement comme si vous étiez finalement en nom propre. Donc on n'a pas de différence ici à ce niveau. Donc on retrouve le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme on l'a vu tout à l'heure. On arrive donc à notre dernière société. Donc, vous l'avez compris, on est sans doute un petit peu partie prenante et je crois que ça se retrouve aujourd'hui dans la réalité par le nombre de sociétés d'exercice libéral qui sont créées aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que c'est un outil intéressant? Parce que ce sont des sociétés commerciales à objet civil. Donc, le législateur a créé ces sociétés pour que des professionnels libéraux puissent exercer dans le cadre d'une coquille juridique qui soit aussi performante que les sociétés commerciales. Ce sont des sociétés de capitaux, donc des sociétés opaques qui vont créer une distance entre l'associé et la société. Et puis, c'est une société d'exercice, donc qui va permettre d'exercer son activité. L'avantage des SEL, c'est qu'on va véritablement avoir cette fois un outil de gestion, un outil d'anticipation. Vous allez pouvoir, par exemple, prévoir un départ en vacances, un congé maternité, un arrêt d'activité pour telle ou telle raison, en provisionnant, en utilisant tous les outils fiscaux à votre disposition. Vous allez voir qu'on peut optimiser sa situation fiscale et sociale grâce à la SEL. C'est aussi un outil de financement puisqu'on va pouvoir revendre sa patientèle. Et puis, c'est un outil de protection du patrimoine personnel et un outil par la suite de transmission. On peut même avoir des holdings de SEL qui permettent d'optimiser encore plus cette gestion. Donc, on a vraiment quelque chose qui peut être piloté de façon très, très fine avec l'aide d'un expert comptable qui vraiment s'y connaît et est partie prenante. C'est vrai qu'on trouvait au début des créations des SEL des experts comptables qui n'étaient pas totalement convaincus par l'outil et qui du coup l'utilisait pas forcément très bien. Donc voilà, il faut vraiment être accompagné par un professionnel qui sait piloter ces sociétés d'exercice libéral. Alors, c'est une création qui date des années 90. Donc, il a fallu quand même attendre le 3 août 1994 pour que le Conseil de l'Ordre nous donne les textes d'application pour que les médecins puissent appliquer ces sociétés, créer ces sociétés d'exercice libéral. Et puis, vous voyez, on a des celles qui sont venues se calquer sur les sociétés commerciales déjà existantes. Donc, on a des CELARL, qui sont des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, des CELAFA, des CELAS, des CELCA, donc des CELURL. On retrouve beaucoup aujourd'hui de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnel. Pourquoi? Parce que on peut dire que c'est une sorte de costume sur mesure, la société d'exercice libéral, parce qu'il faut vraiment l'adapter à vos objectifs, à ce que vous souhaitez faire, à la façon dont vous souhaitez développer votre activité. Et en costume sur mesure, on est mieux si on est tout seul dedans. Donc on a beaucoup, je crois, aujourd'hui de création de ces CELARL unipersonnels qui peuvent éventuellement se transformer. Alors, les principaux avantages de la SEL, c'est d'abord, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, vraiment une séparation juridique entre patrimoine professionnel et patrimoine privé. Donc, seul le patrimoine de la société va répondre des dettes encourues. Elle va permettre de valoriser sa patientèle en cas de revente à la SEL. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut créer cette société d'exercice libéral, notamment en se revendant à soi-même sa patientèle. Le revenu que la SEL va verser au médecin en contrepartie de sa fonction de gérant va être déductible du résultat de la société. Donc, c'est vous qui allez déterminer quels sont vos besoins, en fait, et quel est le montant du salaire que vous souhaitez que votre société d'exercice libéral vous verse en fonction de vos différents objectifs. Et ce salaire-là, sur lequel vous allez être imposé par la suite, va être déductible de votre société. Les recettes ne vont plus être imposées entre vos mains à l'impôt sur le revenu, mais elles vont être imposées au nom de la société à l'impôt sur les sociétés, avec une première tranche d'imposition de 15% à hauteur de vos 38 120 premiers euros de bénéfices, et le reste sera imposé pour cette année au taux de 26,5% d'impôt sur les sociétés, et dès l'année prochaine on passera à 25%. Donc vous voyez qu'on a des taux d'imposition qui sont plus intéressants ici. Les dividendes, alors les dividendes, ce sont les sommes que la SEL va verser à l'associé médecin s'il souhaite recevoir ces dividendes. Ces dividendes ne vont pas rentrer dans l'assiette des cotisations sociales. On va en reparler dès lors que la distribution n'excède pas 10% du capital social, des primes d'émission et des sommes laissées en compte courant. Alors, c'est un petit peu technique tout ça, mais il faut comprendre que sur les salaires, vous avez des charges sociales, et vous verrez qu'on a souvent en tête la charge fiscale que l'on va devoir payer et moins la charge sociale. Or, les charges sociales sont extrêmement importantes. Et au premier temps des créations des sociétés d'exercice libéral, les médecins, certains médecins se sont dit « Ah ben c'est merveilleux, je vais me verser un salaire très très modeste, à peine au-dessus du SMIC, et je vais du coup payer peu de charges sociales, et le reste je vais distribuer des dividendes qui ne seront pas soumis aux charges sociales ». Donc s'en est suivi un bras de fer avec la caisse d'assurance maladie qui effectivement a gagné sur le principe que effectivement les dividendes sont bien considérés comme des revenus du capital et non du travail, mais simplement si ces dividendes sont limités à 10% du capital social. Donc si la société d'exercice libéral vous verse des dividendes, ces dividendes ne seront pas soumis aux charges sociales à hauteur de ces 10% de capital social. Donc ça permet d'avoir là une optimisation intéressante. On peut également, si on ne souhaite pas, si on n'a pas de besoin particulier, on peut capitaliser ses dividendes et se servir de la société d'exercice libéral comme finalement d'une tirelire. C'est souvent ce qu'on peut faire en fin d'exercice, soit en vue de procéder à des investissements futurs, par exemple. Et puis, lorsque ces dividendes sont distribués, ils sont imposés de façon plus favorable pour l'associé, pour le médecin, puisque ce sera imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de façon plus intéressante. Alors, vous avez un petit schéma ici, si vous le voyez à l'écran. Donc, vous avez là, de façon schématique, la structure que l'on retrouve dans le cadre d'un exercice en BNC. Donc, vous voyez qu'on retrouve les recettes encaissées, les frais généraux, les charges sociales. Tout ça va venir constituer votre bénéfice, vos bénéfices non commerciaux qui vont être assujettis à l'impôt. Et ce sont ces bénéfices qui vont être assujettis aux charges sociales. Et lorsque l'on se trouve dans le cadre d'une société d'exercice libéral, on va retrouver les recettes, les frais généraux et les charges sociales, mais on va déduire la rémunération qui est versée au médecin, qui va donc venir diminuer le montant du bénéfice avant impôt. Ce bénéfice avant impôt va être soumis à l'impôt sur les sociétés. On retrouve les deux taux d'imposition. Et on aura à côté le médecin qui va recevoir sa rémunération, qui va être soumise à l'impôt sur le revenu. Et vous voyez les petites mains que vous avez à l'écran, ce sont les points d'action possibles donc qui permettent d'optimiser votre situation à la fois sur la rémunération du médecin et à la fois sur la perception de dividendes. Donc concrètement, si on schématise, on observe, donc là on a pris un exemple d'un médecin avec des recettes de 250 000 euros, on voit qu'on a une optimisation de la situation fiscale et sociale qui est non négligeable, avec en plus un disponible qui est relativement intéressant. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? Comment créer une société d'exercice libéral? Donc, on a deux possibilités. L'apport de la patientèle à la SEL, la revente de la patientèle à la SEL. La valeur de la patientèle va s'évaluer en fonction de votre type d'activité. Donc, là aussi, l'ordre donne des clés pour l'évaluer. on va apporter sa patientèle à la société d'exercice libéral. L'avantage, c'est que on peut dégager du coup un capital pour un projet particulier. Donc ça permet de valoriser sa patientèle et puis ça permet de constituer un capital si simplement c'est apporté. L'inconvénient, c'est que le médecin ne va pas disposer du capital si simplement le médecin apporte au lieu de vendre à la société d'exercice libéral. Si au contraire, le médecin décide de vendre sa patientèle, donc là on est dans le cas d'un médecin qui a déjà exercé auparavant en nom propre et qui va décider de vendre la patientèle à la société d'exercice libéral, donc à ce moment-là, le médecin va faire effectuer un emprunt à la SEL et va recevoir, lui, une somme qui va être représentative de sa patientèle et qui va lui permettre, lui, de valoriser sa patientèle et d'avoir une somme disponible pour un projet, par exemple, d'achat d'immobilier, puisque on en parlera, c'est aussi également important. Sur le régime fiscal, donc, du point de vue de la société sera soumise à l'impôt sur les sociétés, donc on a vu les taux applicables. Contrairement au régime applicable en matière de BNC, la SEL va pouvoir déduire la rémunération du médecin et les provisions régulièrement constituées. Et pour les associés, les rémunérations qu'il va percevoir, donc le médecin va être imposé à l'impôt sur le revenu et dans la catégorie des traitements et salaires. Et les distributions de dividendes qu'il va percevoir va être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, donc avec un régime fiscal plutôt intéressant, donc soit le prélèvement forfaitaire unique, soit l'abattement de 40%. Peut-être tu en reparleras. Donc pour finir et pour résumer par rapport à toutes ces cartes que l'on a vues, la société d'exercice libéral permet de cumuler plusieurs avantages. On a effectivement les économies de charges sociales, les économies de charges fiscales, la possibilité de valoriser le fonds libéral en cas de revente de la patientèle. Mais c'est presque pas le plus important parce que ce qui me semble surtout majeur, c'est que vous allez être seul maître à bord. Vous allez vraiment pouvoir piloter votre activité en fonction de vos besoins, en fonction de l'évolution de votre situation personnelle, familiale, en fonction de l'évolution de votre activité. Et ça, je pense que c'est vraiment majeur parce que vous serez vraiment outil, vous aurez un outil pour votre pratique professionnelle qui vous permettra de piloter vraiment comme vous le souhaitez. Laurent, je te laisse à présent la parole pour des aspects plus pratiques. Je vous ai donné toutes les cartes et Laurent, maintenant, va vous expliquer comment en tirer le meilleur parti.
Merci. Alors, Marie, tu es intarissable sur l'exposé du béaba du médecin. À titre liminaire, je voudrais faire deux interventions au niveau de votre ordre. Vous avez un ordre professionnel des médecins qui aujourd'hui s'intéresse à la jeunesse qui s'installe. Alors on va parler d'eux et je tiens à souligner que c'est une excellente idée d'intégrer justement l'avenir parce que ça fait partie selon moi, du dynamisme d'une instance professionnelle. Donc je salue en tout cas toutes les personnes élues qui sont à la manœuvre. Moi, j'interviens aujourd'hui au titre de l'Ordre des experts comptables au niveau régional. Donc je porte une casquette avec des messages assez généralistes dans certains cas et je vais essayer de vous donner un certain nombre d'exemples qui vont montrer que tout n'est pas si simple. Alors qu'en est-il ? Vous avez vu que dans l'exposé de notre conférencière, on a beaucoup parlé de mésentente. Ça a été cité peut-être 4-5 fois, à tel point que on est dans un sujet aujourd'hui qui est le béaba de l'installation et on vous parle de séparation et de mésentente. Pourquoi ? Et c'est à juste titre que ça a été évoqué, parce que si ça n'est pas évoqué au début d'une installation, lorsque la mésentente arrive, elle n'est quasiment plus réglable amiablement. Et lorsque deux médecins ou d'autres commencent à se disputer, se chamailler, se rajoutent à cela des phénomènes d'ego qui fait que la raison n'a plus lieu d'être. Alors, je vous donne cet exemple-là parce que moi, j'ai eu quelques missions de juge arbitral. Donc, dans ma vie professionnelle, je suis expert comptable, mais je suis aussi juge au tribunal de commerce. C'est-à-dire que j'ai à traiter des conflits, des problématiques de sociétés qui vont mal. Et de temps en temps, quand des médecins commencent à avoir des désaccords forts, vous devez nommer un juge arbitral ou plusieurs avant de partir devant les tribunaux. Et le constat est le suivant, c'est que très souvent, il y a eu un problème de communication en amont. Et après, ce qu'il m'est dit de manière tout à fait confidentielle, c'est, j'ouvre les guillemets, j'en fais une affaire de principe. Fermez les guillemets. Et à partir de là, c'est très compliqué d'arriver à dénouer. Donc, lorsque Marie vous dit qu'il faut, lors d'une installation, parler de pacte d'associés, parler de règlement intérieur, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail de ces sujets-là, mais c'est de dire que ce sont des sujets à évoquer tout de suite en amont. Ça veut dire qu'il faut vous faire épauler par des spécialistes. On peut les appeler avocats, on peut les appeler experts comptables. J'ai envie de dire peu importe. En tout cas, ils ne peuvent pas s'appeler des charlatans du conseil. Ce sont des gens qui ont des formations et qui connaissent et qui peuvent anticiper en fonction du pédigré de chacun et des objectifs les points d'attention. Alors, je vais vous donner tout de suite un exemple. J'ai deux médecins qui s'associent ensemble, quelle que soit la structure, CELAR, la SCP, etc. Et leur règlement intérieur, effectivement, ils en avaient un. Ils disaient, ils sont payés en fonction du temps passé, puisqu'ils considèrent que plus on travaille au cabinet, plus on ramène de l'argent, donc plus on doit avoir sa quote-part pour soi. Et puis, dispute entre associés, ils commençaient à ne plus s'entendre. Avant, ils s'invitaient l'un et l'autre, les brunchs le dimanche. Puis, c'est passé quasiment à l'ignorance quand ils se rencontraient. Et l'un des deux s'est mis à s'enfermer dans son bureau et à regarder la télé et ne travaillait plus. Mais il s'enfermait plus que l'autre qui bossait, ce qui fait qu'il revendiquait son droit à avoir un bénéfice supplémentaire. Comment allez-vous traiter ça quand vous avez un pacte qui vous dit que c'est en fonction du temps passé dans le cabinet ? Lui, il a appliqué à la lettre. Donc ça se finit toujours, quasiment dans ces cas-là, dans le sang, puisque ça met énormément de temps pour résoudre le problème. Ça prend ce qu'on dit souvent l'esprit et le corps, ce qui fait que pendant ce temps-là, on n'a pas la tête à ses patients. Alors, une fois avoir dit un peu ce préambule, je ne vais plus parler trop de mes ententes, on va parler de l'installation et de la vie courante. Il faut savoir que quand vous allez vous installer, vous soyez seul ou avec des associés, on oublie souvent que vous avez deux associés qui seront toujours présents tout au long de votre vie professionnelle et qui ne seront jamais inscrits dans vos statuts. Le premier, c'est l'administration fiscale. Le deuxième, c'est les charges sociales, l'URSSAF et la CARMF. Et vous verrez qu'à ce titre, je fais un clin d'œil, mais la cotisation de l'ordre, c'est peanuts. Ramenez à ce que ça vous apporte. Quand vous avez en tête que ces deux partenaires vont vous suivre, bien évidemment, vous allez toujours avoir comme questionnement comment je fais pour diminuer leurs dividendes à eux, leur quote-part. C'est là où les slides qui vous ont été présentés sont intéressants parce qu'elles ont eu le mérite de brosser tout ce qui existe. Quand je vais vous dire, vous pouvez vous installer SCM, SCP, SDF, CELARL, CELURL, SPFPL, CELAS, BNC, vous allez me dire, mais je n'y comprends plus rien. Et vous auriez raison. Tous ces termes sont trop compliqués. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quels sont vos objectifs. Et le professionnel qui va vous accompagner va trouver les moyens. Je vais vous donner quelques exemples. Vous êtes un jeune installé et vous dites aujourd'hui, il y a une pénurie de médecins généralistes dans tel secteur. Et dans ce cas-là, dès que je vais poser ma plaque, même le médecin qui est là va me laisser sa patientèle, sera ravi de savoir que juste quelqu'un est là pour le remplacer et que des patients auront maintenant un médecin pour les suivre. Dans ce cas-là, la problématique sera différente de « je suis chirurgien orthopédique, on me propose une clinique qui a pignon sur rue dans le 8e arrondissement de Marseille, mais pour pouvoir avoir des places au bloc opératoire, un vieux de la vieille me dit « c'est 400 000 euros pour que tu t'installes et je te vends une partie de ma patientèle » ou ça peut s'appeler aussi de la patientèle indivis, un droit de présentation. Le sujet de ce soir n'est pas de donner le nom, c'est de comprendre les mécanismes. Et dans ce cas-là, j'ai deux types d'installations différentes. Il est évident que pour ces deux personnes, la réponse de la structure juridique qui va gérer l'activité du médecin sera différente. À titre personnel, quand on parlait des sociétés d'exercice libéral, beaucoup, et effectivement d'experts comptables, étaient réfractaires. Moi, je ne suis pas un pro de la CELARL, ni de la CELURL, ni de la CELAS. Mais dans certains cas, aujourd'hui, on va essayer de sortir avec des schémas, un peu des grandes masses. Si vous devez emprunter 400 000 euros pour vous installer, je prends des exemples un peu larges, vous allez inévitablement constituer une CELAS ou une CELARL ou une CELURL, mais en tout cas une société d'exercice libéral, parce que par les mécanismes qui ont été expliqués, où une société paye de l'impôt société alors qu'un libéral va payer de l'impôt sur le revenu et également des charges sociales, le fait d'avoir un crédit va vous envoyer vers la création d'une société d'exercice libéral. Mais si je m'installe purement et simplement, que j'ai très peu de frais, que j'ai uniquement un peu de matériel à acheter, je pourrais aller en profession libérale, c'est-à-dire BNC, bénéfices non commerciaux. Certains appellent ça la 2035 dans le jargon comptable. Je n'aurai aucun inconvénient. Ensuite, la question qui revient souvent, c'est de dire, je gagne 100 000 euros par an, je gagne 200 000, je gagne 300, je gagne 400. Est-ce qu'il vaut mieux que je sois maintenant en CELARL, parce qu'aujourd'hui, je suis en profession libérale, installé en bénéfices non commerciaux? À cela, ma question est, sur ce que vous gagnez, combien vous reste-t-il à la fin de l'année? Il me reste 0, il me reste 10 000, il me reste 20 000 ou il me reste 150 000 euros. En fonction de la réponse, le conseil que va vous donner un avocat ou un expert comptable sera différent. Si vous êtes en société exercice libéral, que vous consommez 100% du bénéfice et qu'il ne vous reste rien, c'est exactement la même fiscalité, mais ça ne rentre pas par les mêmes lignes, les mêmes codes, les mêmes numéros que celui qui est installé en profession libérale. En revanche, si vous avez un résultat de 500 000 euros et que vous avez besoin pour vivre, pour payer vos impôts, vos voyages, etc., de 300 000 et que tous les ans vous mettiez 200 000 euros de côté, dans ce cas-là, on peut se poser la question de dire, est-ce qu'il vaut mieux pas que ces 200 000 euros soit assujetti à un impôt société expliqué par notre conférencière à 15% jusqu'à 38 000 et 26 et quelques au-delà, par rapport à un impôt sur le revenu qui est de 45%, sur lequel aussi j'aurai des charges sociales. La réponse est factuellement laisser l'argent dans une société d'exercice libéral à l'impôt sur les sociétés. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai pas résolu un problème qui va arriver plus tard. C'est cet argent, à qui appartient-il ? Que puis-je en faire? Cet argent, il appartient à qui? Il appartient à une société d'exercice libéral. Donc, il n'appartient pas au médecin. Et de manière naturelle, le médecin se dit au fond de lui, c'est pas grave, dans le temps, je vais acheter des appartements, je vais investir dans des start-up, je vais... Sauf que vous avez un troisième associé qui, lui, ne vous prend pas d'argent, mais qui permet de réglementer votre métier et qui permet aussi de dire qu'aujourd'hui, après des centaines et des centaines d'années, vous avez un métier qui fonctionne, c'est la réglementation ordinale. La réglementation ordinale de l'ordre des médecins est différente de celle de l'ordre des pharmaciens, de l'ordre des experts comptables, de l'ordre des architectes. Et dans votre réglementation, aujourd'hui, on constate que beaucoup de médecins sont en infraction, sans le savoir, sans le vouloir, donc n'ont pas le caractère intentionnel, parce qu'ils sont en marche par rapport à la déontologie et à la réglementation intérieure. Pourquoi? Parce que certains ont utilisé cet argent qui est dans cette société exercice libéral pour acheter des biens dans lesquels ils font de la location naturelle, dans lesquels ils vont acheter des participations dans des structures, qu'elles soient des structures de clinique ou des structures de commerciales, des start-up, etc. Or, l'objet seul et unique d'une société d'exercice libéral, de l'ordre des médecins, c'est l'activité médicale. Ce qui fait que on se retrouve avec certains médecins qui au bout de X années, peuvent avoir dans leur société d'exercice libéral des vraies cash machines, des sociétés avec 300, 400, 500 000 euros, voire plus. Et là, ils nous disent, alors, vous m'avez expliqué, Vervloot, que je ne peux pas acheter des sociétés civiles immobilières avec ça. Je ne peux pas investir en... Je peux faire quoi ? Alors, je vais le reprendre. Ça va me coûter combien ? Et là, on a la désagréable réponse qui est de dire, souvenez-vous X années avant, on vous a expliqué que quand vous allez sortir l'argent, il faudra passer par une distribution de dividendes. Et comme ça a été expliqué, la distribution de dividendes subit un impôt, c'est-à-dire on va payer à notre actionnaire l'administration fiscale, et les dividendes subissent aussi des charges sociales, ce qui est une sorte d'anomalie intellectuelle, puisqu'il y a 15 ans en arrière, les dividendes n'avaient pas de charges sociales, mais un jour, la CARMF a dit, monsieur le législateur, si vous ne changez pas les lois, je ne pourrai plus payer la retraite des médecins, puisqu'aujourd'hui, les médecins ont optimisé en se versant des dividendes et plus des salaires. Et donc, le législateur a purement et simplement dit, je vais mettre des cotisations sociales, CARMF, sur les dividendes. Quelques semaines après, c'est l'URSSAF qui a dit, monsieur le législateur, vous m'avez oublié dans le texte de loi. Inévitablement, ça a été corrigé. Donc, quand la CELARL, CELURL, la Société d'exercice libéral, verse des dividendes à ses associés, ça revient à verser un quasi-salaire avec charge sociale. Et on revient à la position initiale si on avait été taxé initialement en profession libérale. Donc ça veut dire que c'est loin d'être simple. Et mes propos vont s'en arrêter là pour savoir est-ce qu'il vaut mieux l'un ou l'autre. C'est de dire c'est du cas par cas. En revanche, nous avons un certain nombre de conseillers dits généralistes qui gravitent autour du monde médical et qui peuvent parfois vous dire qu'il y a de l'optimisation avec je crée des holdings qu'on appelle dans le jargon médical SPFPL, ça veut dire société de participation financière des professions libérales. On aurait pu dire holding, ça aurait été plus simple, mais c'est pour dire c'est la holding d'une profession réglementée. Et avec cette holding, vous allez faire monter l'argent de la CELARL à la holding, de la holding vous créez une SARL qui prête, de la SARL, vous... Inévitablement, si vous êtes vu, vous serez pris par votre instance parce que ça n'est pas autorisé de jongler ainsi. Donc, attention, on ne fait pas ce qu'on veut, même si vous aurez toujours un copain médecin qui vous dit « Moi, j'ai fait ça et ça marche vachement bien. » Alors, dans les quelques minutes qui me restent, hein, je vais essayer de vous donner après quelques avis et conseils. Quand vous installez, on va vous dire, vous choisissez quel secteur ? Secteur 1, secteur 2. Et là, c'est effectivement un sujet qui est complexe parce qu'on vous a expliqué que si vous choisissez le secteur 1, vous ne pourrez plus jamais passer en 2. Mais si vous êtes en 2, vous pourrez passer en 1. Mais si vous êtes en 2, ça va vous coûter plus cher en cotisation sociale. Et là, souvent, quand je m'installe, je ne sais pas comment je vais vivre mon métier, je ne sais pas si je vais être amené à faire des dépassements d'honoraires, je ne sais pas si ma première installation sera la dernière. Donc, vous aurez un choix à faire. Donc là-dessus, l'Ordre des médecins est tout à fait apte de vous donner tous les renseignements. Moi, en tant qu'expert comptable, ce que je peux vous dire, c'est qu'un secteur 1 comparé à un secteur 2 qui signe une convention avec la CPCM qu'on appelle dans le jargon l'OPTAM, a des cotisations sociales, CARMF et URSSAF, qui sont quasiment remboursées par l'OPTAM. Et c'est quasiment la même chose. Et donc, vous avez la possibilité d'être en secteur 2 et donc dans le temps d'avoir le choix. Mais comme vous exercez en fait en 2 sans dépassement d'honoraires en signant une convention avec l'OPTAM, ça revient à se faire rembourser des surcotisations du secteur 2. Donc là-dessus, vous aurez une première réflexion à avoir. Ensuite, c'est de dire, est-ce que je vais donc m'associer tout de suite ou attendre un peu ? Je rappelle très souvent que dans une vie profane de tous les jours, on ne se marie pas le jour où on se rencontre. On apprend à vivre ensemble. On va au restaurant, on va un peu plus loin, on se fiance, et on se marie. Si on saute les étapes, très souvent, eh bien, il peut y avoir des catastrophes. J'ai envie de vous dire que quand vous allez vous installer, il faut essayer de passer par ces étapes d'apprendre à vivre ensemble professionnellement. Alors que si vous vous mariez tout de suite, c'est plus difficile d'en sortir. Et là-dessus, on a beau le dire, mais le nombre de fois où ça a permis d'éviter des catastrophes, je peux témoigner que c'est un conseil à mettre en place. Après, vous avez quel type de métier je vais exercer. Là aussi, les règles ordinales ne vous autorisent pas à exercer tout type de métier dans tout type de structure. Ça a été évoqué et je vais vous donner un exemple. Vous êtes médecin généraliste et vous vous mettez dans les activités de chirurgie esthétique. Vous avez le droit. Puis vous apercevez que votre résultat de médecin généraliste est vite compensé par des activités beaucoup plus lucratives en temps passé d'activités esthétiques. Et donc, le réflexe spontané, c'est de dire « Je vais laisser mon activité généraliste dans une structure A et je vais mettre mon activité d'esthétique dans une structure B, de sorte de bien suivre, de bien dissocier, parce que peut-être que je vais m'associer avec quelqu'un dans la structure A, mais je ne veux pas l'associer dans la structure B. » Et là, vous allez avoir une contrainte qui est « Vous ne pouvez pas avoir deux activités dans deux structures différentes. » Ça doit être réuni dans la même structure. Soit vous avez tout au titre d'une activité libérale, soit vous avez tout au titre d'une activité société d'exercice libéral. Soit c'est une société, soit... Mais je ne peux pas avoir généraliste en libéral et mettre mon esthétique ailleurs. Ensuite, dans les pièges dans lesquels certains médecins qui commencent à être entrepreneurs peuvent tomber, c'est d'être gérant de sociétés commerciales qui sont... des périphéries, des laboratoires pharmaceutiques, des sociétés de formation X ou Y. Un médecin ne peut pas avoir un mandat social dans une société commerciale. Donc, à ce stade, la recommandation que nous vous faisons, c'est de dire, si vous avez après des interrogations, vous avez une instance ordinale qui est tout à fait apte de vous conseiller et de vous dire, là, non, ça ne marche pas. Là, ça marche, ou ça marche là, mais il faut corriger, comme ci ou comme ça. Donc, évitez de faire sans savoir, parce qu'après, corriger est toujours un problème. Vous allez avoir moult et moult médecins qui se sentent, à travers mes propos, peut-être en dehors des clous, et se diront, mais on ne m'a jamais dit, jamais fait le reproche, l'ordre ne m'a jamais interrogé. Très souvent, c'est lors des mises à jour de vos dossiers que l'instance peigne un peu votre activité et peut s'apercevoir que vous avez des carences. Donc, pour les jeunes qui s'installent, autant anticiper. TVA. Avez-vous de la TVA sur vos activités de médecin? La réponse est non. Je crois que c'est assez clair. En revanche, le mot TVA sera associé dans des activités comme des expertises ou de l'esthétique qui sont considérées comme du métier lucratif, quasi commercial. Et là, juste pour information, moins de 32 000 euros de chiffre d'affaires, pas de TVA. Plus de 32 000, TVA. Une question qui revient souvent, c'est « Moi, je comprends que la selle, ce n'est pas forcément la réponse à mon activité, mais en libéral, je vais avoir des revenus qui vont monter peut-être très fort, peut-être descendre, peut-être remonter, et je crains les régularisations de charges sociales et d'impôts sur le revenu. » Réponse. Vous avez raison à 100%. Lorsqu'on se fait rattraper par l'URSSAF et la CARMF avec des décalages de quasiment un an, c'est toujours désagréable, surtout quand il faut payer. Depuis un an et demi, deux ans, il faut savoir que la modulation des bénéfices en cours d'année à l'URSSAF et à la CARMF fonctionne parfaitement bien. La CARMF, ça fonctionne peut-être depuis un an, l'URSSAF depuis deux ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait chez nos médecins, on leur fait une situation intermédiaire, on leur dit à 6 mois, ton bénéfice est de 100. L'année dernière, il était de 60. Donc, vous risquez d'avoir une augmentation importante par rapport à l'année dernière. Et là, spontanément, on demande à l'URSSAF et à la CARMP de réajuster nos appels de cotisation pour éviter d'avoir des rattrapages un an après. Ça fonctionne parce que maintenant, les outils sont tous quasiment informatisés et il y a des liens et c'est les machines maintenant qui moulinent. Je rappelle, il y a 2 ans, ça n'était pas possible. Et ce travail-là, qui est quand même une préoccupation majeure de nos médecins, fonctionne aussi avec l'impôt sur le revenu. Vous allez payer des acomptes d'impôt. L'année d'après, si votre bénéfice fait x2, vous allez avoir un rattrapage. Vous pouvez l'anticiper et donc éviter d'être pris à la gorge parce que très souvent, on confond bénéfices et prélèvements. Et la difficulté, comme l'a expliqué Marie, c'est que quand je suis en profession libérale, je peux avoir un bénéfice de X, mais si je n'ai pas payé mes cotisations sociales à la hauteur de mon bénéfice, le rattrapage se fera l'année d'après. Donc si vous avez pris tout cet argent et si vous avez consommé l'intégralité de cet argent, vous paierez votre rattrapage sur les bénéfices de l'année d'après. Et on a comme ça un certain nombre de médecins qui, l'année de leur retraite, sont très embêtés puisqu'il leur manque une année de bénéfice pour payer ce qui reste au titre des années antérieures. On a parlé de clause de non-concurrence, indispensable. Quand on s'installe, quand on se sépare, il faut évoquer ce sujet, clause de non-concurrence, pour s'assurer que la personne ne se réinstalle pas en face si vous lui rachetez les parts, si vous lui rachetez de la patientèle, parce qu'il peut toujours y avoir des coups fourrés de certains. Nous ne sommes que des humains. Je vais vous dire travail dissimulé. Alors, quand je parle de travail dissimulé, c'est quelque chose que j'ai compris dans beaucoup de médecins et que maintenant l'URSSAF a compris que sans le savoir, vous pouvez être gravement en infraction avec le travail dissimulé. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est vous faites travailler des internes. Au niveau ordinal, pas de problème. Ils ont les numéros pour travailler, les agréments, la compétence. Mais ces internes-là, très souvent, ne sont pas immatriculés à l'URSSAF. Ils sont référencés à l'ordre, mais ils ne sont pas connus des caisses sociales et des caisses fiscales. Et quand vous allez leur verser la redevance négociée, à juste titre, pour un travail à juste titre, vous ne le saurez pas, mais très souvent, ces internes-là, soit ne déclarent pas ces revenus aux impôts, soit ils le déclarent, mais la plupart ne déclarent pas leurs revenus aux caisses sociales. De ce fait, vous vous retrouvez sans le savoir en travail dissimulé, c'est-à-dire en complicité. J'ai un 2e exemple. Et ce que je vous dis là, c'est le fruit de contrôles fiscaux. Il y en a eu un dans un hôpital connu à Marseille, à caractère semi-privé, semi-public, où ça a fait énormément de bruit et ça a été négocié dans des cabinets, dans les hautes instances, pour dire « Ok, mais à partir de l'année prochaine, on ne veut plus voir ça. » Après, vous avez le chirurgien qui a une assistante qu'il va payer un peu à la tâche pour pouvoir aller un peu plus vite dans ses opérations, offrir un service à son patient et qui va donner un chèque. Et très souvent, on voit que l'assistante est salariée de la clinique. Et ça se fait, mais vraiment spontanément. Que fait-elle ? Elle prend son chèque et elle le met sur son compte bancaire. Et le médecin va aller voir son expert comptable en disant « Vous m'avez bien déduit les 20 000 euros que j'ai payés à mon assistante dans l'année 2020. » Oui, oui, sauf que cette personne-là, elle est salariée d'une clinique, elle n'est pas salariée de chez vous et elle n'est pas en profession libérale à titre personnel. Ça s'appelle du travail dissimulé. Et aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les URSSAF, qui sont des corps de contrôle maintenant très, très performants, l'ont compris et ont eu une campagne qui continue de faire des contrôles de cabinets médicaux qu'ils aient un salarié ou 2 ou 4, c'est-à-dire des petits. Pourquoi ils le font ? Parce qu'ils veulent voir comment ces cabinets fonctionnent au niveau de ces petites redevances à droite et à gauche. Alors, on vous a évoqué centre de gestion agréé. Vous entendrez parler, je m'installe, je suis profession libérale. On vous a dit, vous devez adhérer à un centre de gestion agréé. Il en existe plusieurs sur Marseille. Moi, je suis administrateur d'un grand centre pas très loin d'ici. Je tairai le nom parce que ce n'est pas l'objet de ce soir. Mais M. Macron, en 2019, a mis fin, sur plusieurs années, à la sanction si on n'adhérait pas à centre de gestion agréé. Avant, si je n'adhérais pas, je gagnais 100 000 euros, je payais les impôts sur 125 000. Donc c'était extrêmement confiscatoire. Donc j'adhérais, ça me coûtait 200 euros et j'avais une structure qui faisait des pré-contrôles pour l'administration fiscale. Dans 2 ans, tout ça sera supprimé. Donc vous n'aurez plus à adhérer de manière obligatoire quasiment à un centre de gestion agréé. Mais arrive en pointillé une nouvelle obligation, je vous donne juste le pitch, ça s'appelle ECF, examen de conformité fiscale. Ça fera l'objet d'une autre formation. Mais ayez en tête que quand on vous enlève une obligation, arrive à pas cadencer une nouvelle et souvent un peu plus contraignante. Dernier exemple de question qui revient souvent sur la jeune profession libérale qui s'installe, et d'ailleurs même les anciens, c'est la voiture. Alors il y a un sujet qui revient tout le temps chez les médecins, c'est je change de voiture, comment dois-je la financer ? Est-ce que je dois aller vers de la location longue durée ? Est-ce que je dois aller vers le crédit bail ? Est-ce que je dois l'acheter ? Est-ce que je dois faire un crédit ? Parce que le concessionnaire m'a dit que 3 petits points. Là aussi, méfiance dans ce que vous allez entendre d'un concessionnaire. Ils sont souvent de très bons conseils sur les voitures, mais rarement sur la fiscalité inhérente au véhicule. Donc, là aussi, je vous dis juste, ayez en tête de consulter un spécialiste pour pouvoir bien répondre. Je pense qu'au niveau timing, je m'adresse à l'organisation, on doit être à peu près bon. Donc, je pose le micro et vous remercie de votre attention.
Alors, ne le posez pas trop loin parce qu'il y a plein de questions qui arrivent pour vous deux. Tout d'abord, merci encore infiniment pour la qualité de vos interventions. J'étais très sensible à ce que vous avez dit et c'est ce que j'ai vécu aussi sur mon installation il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Quand on est allé rencontrer avec mon futur associé, le spécialiste qui nous a conseillé, il a eu une attitude entre guillemets vraiment de « je vous fais une consultation ». Et sa première question, ça a été « racontez-moi votre histoire, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et à partir de ça, lui, effectivement, il a construit les moyens de nous permettre de décliner notre histoire. Et je trouve que c'est ce que vous faites remonter aussi. Et je trouve que c'est une attitude vraiment extrêmement pertinente parce que toutes les histoires des médecins et des associations sont forcément différentes. Et merci beaucoup pour cette approche. Je vais donc me faire le porte-parole des questions. Alors, il y en a beaucoup. Je vais essayer de faire le tri. Première question rapide. Un médecin peut-il participer à 2 SEL? Je vous laisse nous dire qui...
Marie, merci. Alors, il s'avère que c'est une question que j'ai posée officiellement en tant qu'expert comptable pour l'un de nos clients. La réponse est non, sauf. Et je vais vous donner un exemple. Alors, c'est non, mais je peux étudier, moi, ordre des médecins, quelques saufs qui sont des saufs d'exception. Donc, la règle, non. Mais imaginez, vous êtes cardiologue. Vous avez un lieu d'exercice à Ouloul et un lieu d'exercice à Marseille. À Ouloul, vous êtes cardiologue interventionniste et à Marseille, cardiologue arythmique. Ce sont presque 2 métiers différents, 2 sites différents. Certes, pour le quidam comme moi, le profane, on entend le mot cardiologue. Mais non, ça reste deux quasi-sous-spécialités différentes. Et là, je viens avec mon dossier à l'Ordre des médecins voir les responsables élus et je vais essayer de plaider ma cause pour que l'ordre valide cette possibilité d'être dans 2 sociétés d'exercice libéral. Donc c'est non, sauf exception.
Autre question. Est-ce qu'un médecin en SCM peut créer une CELARL? Et si oui, est-ce que c'est... J'essaie de bien comprendre, excusez-moi. Est-ce que c'est le médecin ou la CELARL qui devient l'associé de la SCM? Est-ce que j'étais clair?
Oui, je me permets de... Et Marie confirmera. Mais alors attention, là, si le médecin exerce en CELARL et qu'il y a une société civile de moyens, alors je vais donner un cas pratique, ça sera très parlant. Marie est en CELARL. Moi, je suis en profession libérale, BNC, et on partage ce magnifique endroit de l'Ordre des médecins avec une SCM. Donc, c'est la SCM qui loue, qui paye la secrétaire, etc. Je suis, en nom propre, associé de la SCM, et dans le cas de Marie, ça sera sa cellule qui sera associée. Donc, ça répond à la première question, c'est la cellule dans ce cas-là. Mais attention, je vois souvent, dans le temps, moi, Vervloot, BNC, libéral, je passe en cellule, soit par un apport, soit par une vente. Donc, je change ma structure. J'oublie d'en parler à mon expert comptable de la SCM, parce que très souvent, ça peut être un autre expert comptable. Et là peut se poser un problème que je peux qualifier de potentiellement très grave, c'est que le nouvel associé de la SCM devient une CELAR, mais dans les statuts, il y a Vervloot en nom propre. Et dans ce cas-là, quand la SCM me remonte mes frais que je dois normalement déduire à Vervloot nom propre qui est dans les statuts, je les déduis dans CELAR Vervloot, et là l'administration fiscale pourrait dire « Vous êtes trompé d'endroit, ça n'arrive pas dans le bon réceptacle ». Donc, on s'aperçoit que là aussi, ça nécessite des suivis juridiques pertinents pour éviter des risques fiscaux majeurs.
Et très franchement, encore une fois, la société d'exercice libéral est un outil juridique où on est très bien tout seul. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment optimiser votre société d'exercice libéral, vous allez pouvoir vous-même jouer sur votre salaire, votre distribution de dividendes chaque année à hauteur des 10%, et ça, vous le ferez bien si vous êtes tout seul dans votre selle. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur outil pour s'associer. Une selle, c'est mieux en cellule plutôt que comme outil d'association. Je vois passer beaucoup de questions, notamment sur comment évaluer les de celle dans le cadre du rachat de parts. Laurent, tu as dit tout à l'heure qu'effectivement, une celle mal gérée donne la même chose que les BNC. Une celle peut donner les mêmes résultats que si on exerce dans le cadre du BNC, mais c'est qu'elle est mal gérée. Voilà. Et si on est à plusieurs, on n'a forcément pas les mêmes objectifs, donc on n'a pas la même façon de le piloter, et ce n'est pas forcément du coup le meilleur outil.
Après, pour nos auditeurs, moi, un phénomène d'expérience, après un certain nombre d'années maintenant, mais ça me fait pas plaisir de le dire, que j'ai évolué sur deux aspects qui ne sont pas des aspects financiers, sociaux, fiscaux, etc., pour celle ou pas celle. Ce que je comprends, c'est que la celle, il y a un côté psychologique, parfois beaucoup plus fort que ce que je l'avais pressenti dans le début de mon activité professionnelle, pour le médecin. C'est un coût financier, c'est des dépôts des comptes au greffe du tribunal de commerce, c'est des assemblées générales. Bon, donc il y a un certain nombre d'inconvénients administratifs. Mais derrière, il peut y avoir pour certains, et donc je peux avoir les mêmes résultats, les mêmes gains, les mêmes envies d'argent, etc. Et je peux avoir deux personnalités où l'un, la selle sera adaptée parce qu'il aura cette sécurisation. Et l'autre dira, ben moi, je préfère économiser 2000 euros de frais que tu vas me prendre comme expert comptable par rapport au libéral simple parce que j'en fais mon affaire. Deuxième aspect, ça, c'est assez récent et il est évolutif. C'est quand je suis médecin, en général, j'ai en face de moi des cliniques qui sont mes partenaires, mais parfois mes détracteurs. Et autant j'ai le sentiment qu'il y a quelques années, nous étions quatre, j'avais quatre cellules, j'étais plus fort. Autant aujourd'hui, je suis une cellule à quatre, en négociation, je suis plus fort avec la clinique. Donc on intègre maintenant un nouveau paramètre, c'est les relations clinique-médecin. Donc je ne parle pas bien évidemment de le plus beau des métiers, du généraliste en campagne qui est seul dans son cabinet. Je parle de ce qu'on a plutôt sur Marseille. Et c'est un paramètre nouveau qu'il faut intégrer, là encore, au cas par cas.
Autre question. Il est mieux fiscalement de s'installer au 1er janvier. Mythe ou réalité ?
Mythe. Mythe. Alors, il y a deux choses. Enfin, je dis deux, comme j'aurais dit, il y a 10 choses. Mais vous avez la contribution foncière des entreprises. Bon, pour un médecin, ça va de 400 euros à 1500 euros. Je m'installe le 4 janvier, je m'installe le 19 décembre, je vais payer le même prix. Enfin, en fait, je vais être exonéré la première année. La réalité, c'est ça. C'est que la première année, je suis exonéré. Donc celui qui s'installe le 19 décembre, je dis ça parce que c'est le jour de mon anniversaire, celui qui s'installe le 19 décembre, il sera exonéré du 19 décembre au 31 décembre pour le même montant que celui qui s'installe le 1er janvier. Il aura gagné 600 euros, 800 euros, 1000 euros. Mais très rapidement, quand vous dites au médecin, dis-moi, tu vas reporter de 6 mois, 4 mois, 3 mois ton installation, mais combien tu vas perdre ? Donc fais la balance entre ce que tu vas gagner et ce que tu vas perdre.
Marie, si tu veux rajouter des choses, hein, tu n'hésites pas, bien sûr. Hein.
Non, c'est tout à fait juste. Après, c'est vrai que fiscalement, on a un calcul de bénéfice sur l'année civile. Donc, on peut jouer un petit peu, mais c'est très à la marge. Et effectivement, on va se priver des bénéfices que l'on aurait pu gagner depuis le 1er janvier. Donc, ce n'est pas forcément une solution idéale.
Question précise encore. En s'installant directement en CELARL, peut-on quand même bénéficier des montages à type de revente de patientèle ?
Il nous faut 2 heures de plus pour répondre à cette question. Mais comme je n'aime pas frustrer un auditeur qui a eu ce réflexe de venir et cette gentillesse, il y a un sujet. La CEL, ça a plein d'avantages, mais c'est quand même une boîte à problème à la revente. C'est une boîte à problème parce que quand vous êtes en profession libérale, on va dire à texte d'aujourd'hui, parce que les textes dans 10 ans peuvent changer. Je revends une patientèle aujourd'hui en profession libérale, j'ai plus de possibilités de cas d'exonération ou d'exonération partielle que si je suis en société d'exercice libéral. Donc c'est pour cela que le conseil souvent que je donne, si tu vas en CEL, hormis l'aspect psychologique, hormis l'aspect négociation avec les cliniques, c'est parce que tu vas mieux vivre sur ta vie des 5 à 10 prochaines années en CEL qu'en profession libérale. Et c'est ces années-là qui comptent. Et quand tu revendras, peut-être que tu auras plus de fiscalité, mais tu seras vieux, riche, avec des appartements en veux-tu, en voilà, et tu auras surtout un prix de vente. Mais tu auras mieux vécu les années d'avant.
Et peut-être rajouter que justement le fait de pouvoir se faire racheter la patientèle par la société d'exercice libéral, c'est quand même un des gros avantages de la CEL. Donc si on crée dès le départ une société d'exercice libéral, c'est vrai qu'on se prive de cet outil-là. Il y a aujourd'hui des professions où on n'est pas forcément sûr d'arriver à revendre sa patientèle, et c'est une façon de la valoriser au moins une fois. Donc à ce moment-là, ça peut être plus... Enfin, on se prive en tout cas d'un intérêt que l'on retrouve dans la CEL si on souhaite dégager un gain de trésorerie par la revente de la patientèle.
Question qui vient de tomber, qui est intéressante. Est-ce que si on veut commencer en faisant des remplacements, on doit payer toutes les cotisations sociales comme si on s'installe ?
À part peut-être une demi-cotisation à l'ordre des médecins, la réponse est oui.
Très bien. Autre question, vous l'aviez évoquée, mais ça a été redemandé. Sur quelle base peut être porté le calcul de rachat de parts au sein d'une CELARL ? Et est-ce négociable ? Et si oui, comment ?
Alors, moi j'ai énormément de sujets d'actualité en ce moment. Vous avez une banque, même si on n'est pas à la télé officielle, je ne vais pas la citer, qui est une banque célèbre, qui prête énormément aux médecins, qui a des nomenclatures professionnelles. Et elle a l'intérêt d'avoir beaucoup de médecins. Et elle a dans son ADN, je dis ça parce que j'ai fait une réunion il n'y a pas longtemps avec son directeur régional, la défense des instances. C'est-à-dire qu'elle s'assure que les montages proposés n'iront pas à l'encontre des règles ordinales et n'iront pas créer des failles dans le futur, dans l'ouverture de la profession à des non-médecins. Et là, vous avez des nomenclatures professionnelles. Le constat, c'est quoi ? Récemment, je viens de faire des évaluations pour un cabinet de néphrologie, un cabinet de radiologie, un cabinet de cardiologie. On constate, quand on se vend à soi-même, on se vend souvent très cher. Et quand on rachète, c'est moins cher que la vente à soi-même. Pour une raison très simple, Marie l'a dit, si je me vends à moi-même, j'encaisse mon argent. même s'il faut que je le rembourse. Mais souvent, j'ai résolu un problème parce que j'avais le pool house à financer. La banque ne voulait plus me payer le pool house. Donc, j'ai fait un crédit sur une société d'exercice libéral. Bref, ça, ça s'appelle de la cavalerie. Mais ça marche assez parce qu'un médecin est solvable. Il faut savoir qu'un médecin, on lui prête sur 7 ans en moyenne pour acheter une patientèle. Les taux d'intérêt qui sont pratiqués aujourd'hui varient de 0,4 à 0,7% an. Inutile de s'en priver.
Ça rejoint une question qui vient de tomber également. Et autre question, doit-on payer la CFE en tant que médecin remplaçant ?
Alors, toute activité qui passe par un numéro SIRET a inévitablement une contribution foncière des entreprises. Celle-ci sera fonction dans son montant du résultat et du chiffre d'affaires du médecin. Donc, le médecin remplaçant qui s'installe n'a pas de crainte pour la première année, sauf s'il s'installe le 19 décembre. Dans ce cas-là, il sera exonéré ces fameux 12 jours, donc c'est quand même pas beaucoup. L'année d'après, le montant qu'il aura à payer varie en fonction des secteurs d'activité, des arrondissements, parce qu'il y a des taxes d'arrondissement de 300 à 800 euros. En 15 décembre.
Ok, alors peut-être une question qui peut être, je dirais, une office de conclusion et de synthèse. Finalement, pour vous, un médecin qui va s'installer, en premier lieu, il va venir voir l'ordre des médecins ici. Et puis ensuite, selon vous, qui doit aller voir ? C'est qui en deuxième qu'on va voir ? À part la Carme Fellursaf, non j'ai...
Marie à ma gauche.
Alors oui, je crois que c'est important d'être encadré dans votre pratique professionnelle future, dans votre mode d'installation. L'expert comptable peut être un très bon interlocuteur, peut-être un avocat si vous souhaitez créer une société. Mais oui, la réponse est voilà, faites-vous entourer. Vous avez l'ordre qui effectivement est un premier interlocuteur et qui peut faire le lien entre les différents professionnels qui peuvent vous encadrer et surtout ils pourront répondre à vos questions et vous piloter au mieux.
N'allez pas voir des vendeurs de rêves parce que vous en avez beaucoup. Vous avez ce qu'on appelle des experts en comptabilité. Donc, c'est une référence à un film célèbre. Il faut aller voir des professionnels, encore une fois, qui s'appellent avocats, experts comptables. Le sujet n'est pas là. Personne ne prêche pour sa propre paroisse. En tout cas, allez voir des professionnels habilités, capables de pouvoir vous répondre. Et vous allez très vite le sentir. C'est quoi votre objectif ? Vous me l'expliquez. Moi, je suis là pour écrire et proposer, pas un, des moyens. Et en fonction de votre appétence, vous allez choisir. Je dirais, puisque c'est le mot de la conclusion me concernant, que nous n'avons pas parlé de la protection du médecin s'il lui arrive quoi que ce soit et son avenir. Vous allez être extrêmement démarché, jeune médecin, par des dizaines et des dizaines d'appels de structures qui vont vous vendre des assurances vie, de la défiscalisation immobilière, des prévoyances, des mutuelles, des retraites. Tout ce que je viens de citer, dans une vie d'un médecin, vous allez normalement les cocher et en avoir. Mais il y a des phasages, il y a des moments de vie. Je commence à aller vers de la défiscalisation quand je commence déjà à payer un certain pourcentage d'impôts. En revanche, la mutuelle, quoi qu'il arrive, il en faut une. La prévoyance dans vos métiers, ça me semble surréaliste de ne pas avoir de prévoyance. Mais est-ce que ça coûte 80 euros par mois ou est-ce que ça coûte 300 euros par mois ? Je ne vais pas vous répondre ce soir, mais ça veut dire prenez le temps de faire des devis. La retraite complémentaire, qu'on appelle la retraite Madelin, est-ce que je dois la prendre tout de suite ? La réponse est non. Vous avez 27 ans, vous avez 29 ans, vous avez 30 ans, vous n'êtes pas obligé de la prendre tout de suite parce que ça n'est pas comme une retraite où plus je la démarre vite, plus j'entame des trimestres. Vous avez le temps de vous poser. Donc là-dessus, vous aurez des sujets importants de mise à plat, mais sans urgence absolue, mais qu'il y aura lieu de mener avec un conseil, quel qu'il soit.
Je crois que dans les questions, on peut retrouver déjà peut-être des futures interventions, puisqu'il y en avait beaucoup. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais je crois qu'il y a matière à se donner rendez-vous bientôt.
Ouais. On pourra peut-être prendre date pour un jeudi de l'ordre spécial prévoyance accompagnement. J'ai une dernière question qui me vient. On voit beaucoup de sociétés, entre guillemets, qui emploient des médecins, qui les salarient, les points vision, les points, etc., les docs bidules. Comment on se protège en tant que médecin là-dedans? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? On voit ça émerger, on a l'impression que ça arrive très, très fort.
Non, mais le, aujourd'hui, ce qu'on voit émerger, c'est un peu tout ce qui est low cost. On l'a eu chez les dentistes avec... au départ, ça naît de pays est ou sud. Et on s'est dit en France, on n'est pas plus bête qu'ailleurs, pourquoi ne pas aller dans le low cost? Et souvent, on a deux sujets qui sont nos deux contraintes. Il y a la contrainte ordinale, parce que dès que je suis dans le low cost, je ne suis pas forcément dans les règles de service. Je ne suis pas forcément dans les règles de communication et de respect d'interdiction, de publicité, de démarchage, etc. Je parle de votre instance. Par exemple, la mienne, j'ai le droit aujourd'hui de me balader avec une pancarte, Vervloot, expert comptable. On ne pourra rien me dire. Mais il y a 10 ans en arrière, c'était interdit. Donc, on n'a pas les mêmes degrés d'avancement, mais en tout cas pour ce qui vous concerne. Et après, il y a un sujet aussi au niveau de l'URSSAF et du travail dissimulé. C'est-à-dire que très souvent, on a un contournement et une utilisation d'un diplôme pour justifier finalement une prestation. Et là-dessus, on appelle à la plus grande vigilance des instances. Et moi, qui ai un peu une formation, puisque je suis aussi juge au tribunal, c'est essayer de voir les mauvais canards et ne pas hésiter à dire, eux, faut les stopper, parce qu'ils sont néfastes dans certains cas. Il faut que ça soit pesé, mesuré, hein, bien évidemment, mais pour la profession. Donc, comme on dit à Marseille, méfie.
Merci beaucoup. J'en profite pour vous remercier encore infiniment pour vos interventions très, très précieuses, pour remercier les gens qui s'occupent de la technique ce soir, qui sont là avec nous et qui permettent que cette réalisation soit absolument parfaite comme toujours. Et puis, tous les membres qui sont présents ici du Conseil, avec un petit merci en plus pour Guy Récorbé, qui s'occupe du pôle contrat ici au CDOM 13 et qui fait un travail remarquable avec toute l'équipe. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain JDO, donc le 13 janvier. Merci beaucoup et bonne soirée.